qu'une émission quotidienne sur l'écologie n'aurait jamais trouvé sa place il y a quelques années sur France Inter ou ailleurs. Sujet rébarbatif porté par des ayatollahs verts ou des bisounours amoureux des fleurs, comme on surnomme parfois les journalistes spécialistes de la question. Le climat n'est pas vendeur pour les médias et relégué donc dans le célèbre reste de l'actualité où la case des jolies histoires liées à la nature mais qui ne font pas la une. La journaliste Anne-Sophie Novel décrypte cette impensée écologique dans son livre intitulé « Les médias, le monde et nous » et nous explique comment le réveil s'est produit depuis 2015 avec désormais une volonté de comprendre les enjeux de l'urgence climatique, les causes et les solutions, mais en essayant de ne pas trop stresser ni culpabiliser. Exercice d'équilibriste pas toujours facile mais essentiel qu'on tâche de faire tous les jours ici dans la Terre au Carré et dont on parle donc aujourd'hui avec vos questions, vos remarques et vos suggestions peut-être dès maintenant au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec le hashtag l'attaque. Guy Vanctil, bonjour.
Bonjour Camille, bonjour.
Alors,
à tous.
C'est vous qui passez au vert cette semaine et vous avez même carte blanche, dites donc.
Oui, et aujourd'hui je vous propose une rencontre avec une pétroleuse, Célia, représentante du peuple Chakriaba.
Juste après 14h, on part respirer les embruns direction les îles bretonnes toute la semaine pour voir comment elles gèrent leurs ressources. Avec vous, Morgane Large, bonjour.
Bonjour Camille. On commence par l'île de Groix aujourd'hui, une île en face de l'Orient dont on va surtout respirer les poubelles. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer.
Et vos solutions pour la planète, Sophie, nous présentera la Water Academy pour que les enfants apprennent à préserver l'eau. Et puis un peu de vélo à travers le Calvados avec Ulysse Blot qui a pédalé pendant 3 mois pour parler transition écologique dans 64 communes. Valérie Ayestaraï est à la réalisation, Alix Barrois et Antoine Gomez à la technique. Bienvenue à tous.
Camille Cronier. La Terre au Carré. Sur France Inter.
Et bonjour Anne-Sophie Novel.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante spécialisée dans les alternatives écologiques. C'est comme ça qu'on vous présente dans Les médias, le monde et nous, livre que vous venez de publier aux éditions Actes Sud et réalisé, je le précise, sous la direction de Cyril Dion. Alors comme ça, on n'est pas sexy.
C'est en effet une façon de voir les choses et c'est comme ça que je l'ai ressenti tout au long de ma petite carrière. Ça fait 10 ans maintenant que je travaille comme journaliste spécialisée sur ces questions d'environnement, de climat. Et ça n'a pas toujours été simple de parler de ces sujets. Alors quand on est freelance, il y a d'autres difficultés aussi parce qu'on n'est pas intégré à une rédaction. Mais bien souvent, il m'est arrivé de proposer des sujets ou d'autres confrères et consoeurs aussi. Et on s'est rendu compte que on nous disait attention, ce sujet de climat est trop anxiogène. Ou là, tu vas encore nous parler d'un truc un peu bisounours. Et franchement, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc toujours quelque chose de compliqué à positionner. Et que ce soit l'environnement ou le climat. Quelque chose qui n'était pas dans une rubrique à part entière, ou quand c'était dans une rubrique, c'était moins important que les questions politiques ou économiques ou l'international.
C'est vous qui écrivez, hein, le climat, c'est pas sexy pour les gens qui n'ont pas lu votre livre. Vous avez aussi entendu des propos qui disent, voilà, c'est pas vendeur dans les rédactions. Hein,
dans les rédactions, il m'est arrivé de proposer des sujets, on m'a dit, oh bah ça on l'a déjà vu sur les déchets plein de fois. J'avais gardé mon sujet au frigo, j'ai ressorti un an et en fait il était énormément relayé. Et il m'est arrivé aussi sur des antennes de radio où parfois on m'a dit, non, surtout, faut pas trop parler de climat, franchement, c'est très, très anxiogène, les gens, l'audience, ça ne marche pas. Donc, et ça, c'était il y a encore 8-9 ans. Mais c'est ce qui a fait que moi, à un moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Donc j'ai été voir des confrères et des consœurs pour leur dire, est-ce que vous ressentez la même chose quand vous traitez de ces sujets? Et j'ai récolté pas mal de témoignages qui allaient dans ce sens-là. Et je me suis dit, c'est qu'il y a un vrai problème dans le fonctionnement même de la fabrique médiatique. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Et c'est pour ça que j'ai voulu fouiller un petit peu tout ça.
Et alors, qu'est-ce que vous avez vu comme évolution, donc à travers l'histoire, on va dire, des médias et donc de l'environnement?
Moi, j'ai déjà le vécu que j'ai dans ma pratique. Mais après, il y a énormément de publications qui ont été faites. Il y a une revue, la revue des médias qui a consacré un numéro entier en 2015 à ce sujet du traitement médiatique de l'écologie. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des phases. Alors, au départ, on a abordé ça dans les années 70, surtout sous l'angle de la nature, de l'environnement. C'est là où il y a les premières associations, les journalistes nature et pour la nature et l'écologie qui s'est créée.
Il y a beaucoup de titres dans les années 70.
Il y a beaucoup de titres.
Et des titres assez rigolos, d'ailleurs, dans ces publications. J'ai vu La Gueule Ouverte, le journal qui annonce la fin du monde.
C'est ça. En fait, il y a eu plein de revues écologistes très engagées, très altères, on va dire. Mais c'est là aussi où il y a aussi beaucoup de littérature. Rachel Carson, Un printemps silencieux, Jean Dortz, Avant que nature se meure, beaucoup de livres qui commencent à mettre ce sujet sur le devant de la scène. Il y a le ministère de l'écologie qui se crée, le premier, en 1971. Et donc, du coup, les médias commencent à s'en emparer. Donc, ça commence à émerger comme un sujet, mais ça reste assez à la marge au départ.
C'est-à-dire qu'il y a des rubriques environnement, mais c'est encore très accessoire.
Ben, c'est accessoire parce que ce que l'on va forcément creuser lorsqu'on aborde ces sujets ne va pas forcément dans le sens du progrès, de l'économie telle qu'on la conçoit à l'époque. Et donc, c'est un discours qui est difficile à avoir parce que si on dit faut pas consommer, faut pas conduire, faut pas, dans les années 70, on n'en est pas là.
Mais pourtant, c'est quand même pas nouveau. C'est-à-dire que dès le milieu du 19e siècle, hein, je crois, c'est présent dans la presse, le climat aux États-Unis, en Angleterre, en France.
Oui, c'est présent. Alors, on en parle beaucoup sur le côté la nature, l'environnement, les grands parcs, on va parler des pollutions, on va parler des dégâts de l'industrialisation. Mmh. On va se focaliser après, pendant un temps, sur les raisons du changement climatique. Après, on va focaliser sur les conséquences de ce changement, qu'est-ce qui se passe en termes de catastrophes naturelles. Et puis après, vers d'autres phases, on va parler des solutions. Mais tout ça se mélange et il y a des va-et-vient dans la façon de traiter l'information sur ces questions.
Alors, vous en avez dit un mot tout à l'heure, hein, ceux qui sont en charge de ces sujets, les journalistes ne sont pas forcément très bien vus. Denis Chessou, d'ailleurs, Monsieur CO2, mon amour, ici à France Inter, nous le racontait il y a quelques semaines dans l'émission.
Je suis passé de l'état, si vous voulez, de zombie à l'état d'alibi. Après, je suis devenu caution. Après, j'ai été merveilleusement honoré. Mais c'est vrai que j'ai commencé à l'époque où on disait « Ah bah l'environnement, ah oui, c'est au front à gauche !»
Alors, pourquoi cette image qu'ils ont, les spécialistes de l'environnement?
Bah, je pense que c'est en fait un moule un peu culturel dans lequel on est. En fait, c'est un prisme d'analyse de la société qui fait que ces sujets, on n'a pas été accoutumés à les traiter dans leur complexité. Donc, on l'a toujours traité à la marge, à côté de l'économie, à côté de la politique, à côté des questions sociétales, alors qu'en fait, c'est au cœur, mais c'est complexe. Donc, souvent, ce sont les journalistes scientifiques qui, les premiers, se sont emparés de ces questions. C'est un peu la fable de l'éléphant que je relate dans le livre, c'est que chacun peut avoir un discours sur l'écologie, mais pour avoir la big picture, comme j'ai envie de dire en anglais, en fait, la grosse image, l'image globale, c'est plus compliqué. Et donc, il faut du temps, mais il faut aussi remettre en cause tout notre modèle sociétal, ce qui fait que il faut aussi que le prisme d'analyse médiatique, journalistique, puisse s'emparer de cette question convenablement.
C'est un écueil, c'est-à-dire que ça remet en cause le système dans lequel on vit, on travaille, et donc finalement tout ce qu'on fait est remis en cause.
C'est-à-dire que c'est pas tant une rubrique qu'il faudrait pour parler d'écologie. C'est-à-dire que c'est la ligne éditoriale même d'un média qui devrait être fondée sur cette vision-là. Et à un moment, là, moi, je suis partie de cette question de l'écologie dans les médias, j'en suis venue à faire cette écologie des médias, qui est un terme de recherche assez récent, où j'ai compris qu'il y avait un vrai écho là-dedans, c'est que on ne peut pas bien traiter de ces questions tant que les médias n'auront pas changé de posture dans leur façon de prendre une certaine forme de responsabilité par rapport aux conséquences de ce qu'ils racontent au quotidien. Et ça, dans un monde où aujourd'hui l'information est partout, il n'y en a jamais eu autant, c'est très important que nous, journalistes, on puisse s'emparer de ça et changer de posture véritablement.
Alors, vous écrivez que les médias ont instauré des préjugés. Vous êtes dur quand même.
Est-ce qu'ils ont instauré des préjugés? Oui, je pense que c'est dans la façon de s'emparer des sujets. En fait, l'intérêt qu'on apporte à un sujet fait qu'on va en faire un sujet d'intérêt. Et c'est ça qui est important. Je pense qu'il y a une certaine façon de traiter de ces questions où on a stigmatisé, où on a eu du dédain, où on a eu une méconnaissance, qui fait qu'on s'en est pas emparé convenablement. Et on a une forme de responsabilité où parfois c'est la société civile qui a porté ces sujets. Et ça, on le sent beaucoup depuis un an. Cette société civile, ces jeunes qui sont désireux maintenant de se dire, attendez, arrêtez de nous raconter des bobards, nous on sait très bien où on va, maintenant on attend vraiment d'être éclairé. Et là où avant, dans notre métier de journaliste, forcément, on narre le monde tel qu'on le voit en temps réel, mais aujourd'hui je pense qu'on est aussi payé, on a une responsabilité pour prendre du temps et essayer peut-être d'éclairer ce qui va venir et donc rentrer dans un peu plus de prospective et expliquer aussi comment s'emparer du futur qui vient. Et ça c'est crucial aujourd'hui.
À quel moment le basculement se fait là ces dernières années? 2015, la COP21 Paris.
Je dirais qu'il y a eu un soubresaut, moi, donc au moment de la COP15, la COP15 en 2009 à Copenhague, qui est un peu retombé comme un soufflet. Et ensuite, il y a eu c'était sur la phase après le Grenelle de l'environnement en 2007. Et ensuite, il y a eu la COP21 qui en fait a réinsufflé quelque chose. Et depuis 3-4 ans maintenant, ça revient. Et surtout Nicolas Hulot qui démissionne comme ça.
C'était il y a pile un an et deux mois.
A fait l'effet d'un électrochoc. Et je pense que vraiment, il y a eu un basculement. Alors après, J'aime pas faire de l'histoire en temps réel, mais il me semble quand même qu'on est en train de vivre une période très intéressante en ce sens. Maintenant, à voir comment justement on s'en empare. Est-ce qu'on va rester dans l'éco-geste? Est-ce qu'on va essayer de prendre du recul? Moi, je plaide pour une politisation du débat, mais dans le sens en refaire un sujet de société où les médias permettent de prendre cette hauteur.
Est-ce que vous pensez, parfois on a l'impression en vous lisant, que les journalistes et les médias donc doivent être quelque part militants par rapport à cette question environnementale?
Non, j'appelle pas à la militance. J'appelle juste à une forme d'engagement, parce que pour moi, l'engagement est un joli terme. On engage... En fait, c'est une espèce de contrat de confiance qu'on doit reprendre. C'est prendre part dans la société. C'est aussi prendre parti, mais c'est aussi un engagement conversationnel. Et on a tellement besoin d'y voir clair aujourd'hui qu'il faut renouer dans ce pacte de confiance-là. Et l'engagement aujourd'hui, on en a besoin. Regardez les chercheurs. Ils sortent aussi de leur réserve pour dire ce que j'observe me dépasse. Je peux pas rester dans cet état-là. Il faut aussi que je prenne ma part. Et ben, journalistiquement parlant, ça peut être, faut bien l'entendre ce que je suis en train de dire, parce que certains vont dire, oh là là, on peut pas prendre parti. Nous sommes journalistes. On a un devoir de
neutralité. D'objectivité, ouais.
Mais je pense qu'on a aussi un devoir d'honnêteté. Et quand on traite ces sujets depuis tellement longtemps, on ne peut pas continuer à mentir ou à minimiser ce qui va se passer.
Alors, vous bougez pas, Anne-Sophie Novelle. La discussion autour de votre livre « Les médias, le monde et nous » et du traitement de la question climatique continue dans un instant. Vous pouvez, vous qui nous écoutez, nous appeler au 01 45 24 7000. N'hésitez pas, puis si vous êtes timide, c'est pas compliqué. Il y a les réseaux sociaux et l'application France Inter sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Je vous rappelle le mot-clé, l'attaque.
France Inter. La Terre au carré.
Guy Vanctil, c'est donc vous qui passez au vert cette semaine. Incroyable ce transfert. Un portrait aujourd'hui, celui d'une Amérindienne en lutte.
Oui, vous parliez de transfert. Et moi, je vous propose de jouer les prolongations. Comme ça, je file votre métaphore footballistique. Et je vous peux... La semaine dernière, on visitait les Amérindiens chez eux en Amazonie. Mais cette semaine, c'est eux qui viennent jusque chez nous pour se faire entendre. Alors, il fallait bien leur rendre la politesse.
Honorinto Uaptabi. Eu sou Célia Chacriabá, eu sou povo verdadeiro.
Je m'appelle Célia Chacriabá, du peuple Chacriabá, le véritable peuple.
Célia Chacriabá fait partie de la délégation de la coordination des peuples indigènes du Brésil qui parcourt l'Europe ces derniers temps pour dénoncer l'explosion des invasions de territoires indigènes avec l'arrivée de Bolsonaro. Combattante de la lutte environnementale et féministe de tout juste 30 ans, elle est aussi accessoirement la première amérindienne au Brésil, titulaire d'un doctorat, excusez du peu. Et quand on lui pose la question sur son impressionnante parure de plumes, ses colliers, son maquillage que vous pouvez voir en photo sur le site, elle vous coupe toute tentation d'exotisme.
Sim, meu pinturas corporais é parte da escrita do território.
Le maquillage que je porte, il y a beaucoup de signification, parce que c'est aussi l'écriture de mon territoire dans ces peintures, dans ces maquillages.
É parte da escrita do nosso corpo, então nosso corpo também é uma manifestação política guardada dentro da alma.
Nos corps, ils portent un message politique, l'histoire de notre territoire.
Quand les peintures donc corporelles sont un papier d'identité et un titre de propriété.
Oui, parce que le message que porte Célia, le message politique avec ses collègues chefs indiens, qui ont été jusqu'au Vatican, où un synode s'est terminé hier en dénonçant un péché écologique, c'est-à-dire péché contre
générations futures.
Les générations futures et la création divine au passage, parce que quand même c'est l'Église romaine catholique. Mais ce message politique de Célia, lui, il est très clair. Pas possible de s'émouvoir de la destruction de la forêt sans prendre en compte le sort des Amérindiens. Et là, nous sommes nous aussi concernés, puisque c'est vrai que la France est l'un des principaux importateurs de soja brésilien.
Littéralement, la soja qui est exportée fora du Brésil, la carne et aussi la madeira ont sangue indígena parce que ces produits sont retirés et arrancados exactement en aires de conflits indígenas.
Le soja, le bois, la viande, elle vient dans des zones de conflits au Brésil. Donc elle porte dans cette viande, dans ces bois et dans ces sojas, le sang de nos peuples.
Et voilà, Camille, comment la plaidoirie d'une représentante de peuple amazonien vire au réquisitoire politique.
E aí a bancada conservadora do Congresso Nacional no Brasil fala por que nós povos indígenas somos tão contra o capitalismo.
Les conservateurs au Parlement souvent nous posent la question pourquoi nous on est contre le capitalisme.
E eu falo que a pergunta é o contrário, por que o capitalismo é tão contra nós povos indígenas.
Et moi j'essaie toujours d'inverser cette question et dire mais en fait pourquoi le capitalisme est tellement contre nos vies.
Oui, parce que là où certains se contentent de jouer les colibris pendant l'incendie, Célia Chakriaba, qui est pourtant loin d'être une militante gauchiste ou une gilet jaune décroissante, elle préfère la contre-attaque en remettant en cause le modèle même de développement parce que nous sommes en surchauffe.
Nós temos pensado que os povos indígenas é uma temperatura do aquecimento global.
Nous on dit que les peuples autochtones sert un thermomètre de réchauffement climatique.
Não dá para falar, para questionar esse desenvolvimento capitalista sem colocar a mão na economia. Nós precisamos repensar um projeto de país e de humanidade, porque o capitalismo é um sistema.
Pour nous, il faut repenser les projets de société. Il suffit pas juste d'être contre le capitalisme, il faut lutter contre ce capitalisme parce que c'est un système qui nous met tous en danger.
Merci beaucoup.
Voilà, à nous de jouer de maintenant, mais débrouillez-vous avec ça, quoi. Mais en tout cas, sachez que les Indiens à plumes ne sont plus ce qu'ils étaient. Ils ne nous parlent pas que de la forêt, mais aussi de nous et notre système de consommation. C'était la minute formation politique par une chef amérindienne. Merci, Célia Chakriaba.
Eh bien, alors oui, on lui dit merci, Guy Passauvert. Eh bien, c'est à réécouter, évidemment, sur franceinter.fr.
Et moi, j'ai une question à vous poser. Vous parliez de politisation nécessaire du débat. Est-ce que c'est le genre de propos qui aurait pu passer, par exemple, dans les sujets nature de Jean-Pierre Pernaut dans le 13h de TF1, parler de capitalisme quand on parle de défense de la forêt?
Anne-Sophie Novel.
Ben, ça peut venir. Oui. Après, la télé, c'est un format. Je parlais avec une réalisatrice récemment qui justement suit ses tribus en Amazonie et qui me disait qu'on lui imposait souvent de montrer les tribus avec leurs plumes alors qu'ils sont souvent habillés en Nike avec des t-shirts. Quelle réalité on montre en fait? C'est ça la question.
Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, Anne-Sophie Novel, pour parler climat et médias. Et on attend vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr, sur la page de La Terre au Carré et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé « l'attaque ». À tout de suite.
Come sometime.
Sundown, c'était le boss Bruce Springsteen.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Camille Cronier sur France Inter.
Avec aujourd'hui la journaliste Anne-Sophie Novel pour son livre « Les médias, le monde et nous » et cette impensée écologique, titre d'un chapitre consacré à la difficulté de parler du climat dans les médias. Il a mis du temps à trouver sa place et c'est pas encore tout à fait gagné, Anne-Sophie Novel, c'est ça?
Ça vient, mais l'enquête que j'ai menée pendant 5 ans m'a emmenée aussi voir un petit peu ce qui se passe en dehors de la France et je suis très près ce qui se passe avec le Guardian. Et Catherine Wiener, qui a pris les rênes du média il y a maintenant 4 ans, juste après la COP21 en 2015, est en train d'impulser des changements assez importants et notamment...
Ils ont changé leur vocabulaire. Exemple, la sémantique est très importante.
Exactement. Au lieu de parler de changement climatique, ils vont parler d'urgence climatique. Au lieu de parler de biodiversité, ils vont parler de vie sauvage. Voilà, ils sont en train d'impulser un certain nombre de changements, mais surtout ils le mettent au cœur de leurs valeurs, de leur ADN. Et donc je parlais d'engagement tout à l'heure, c'est une forme d'engagement fort, assumé, honnête, transparent, et je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui.
Alors on en parle avec vous sur les réseaux sociaux, je vous rappelle le mot-clé, la TAC, et au standard 01 45 24 7000, avec Jackie qui nous appelle du Gard. Bonjour Jackie.
Bonjour France Inter, et bonjour à toute l'émission. Bravo pour votre émission justement écologique, parce qu'il est temps de mettre les pieds dans le plat, depuis le temps qu'on est une grande bande d'écolos sur cette planète et qui avons du mal à nous faire entendre. Vous pointez du doigt tous les problèmes de notre société, justement. Je voudrais dire que le vrai électrochoc, ça a été la démission de Nicolas Hulot. Les climato-sceptiques qui sont toujours à l'œuvre, d'ailleurs, et qui continuent leur œuvre malfaisante, qui n'ont pas compris que la biodiversité est quelque chose d'indispensable pour la survie de notre écosystème et des hommes, ils continuent à être à l'œuvre et que je me rappelle d'une émission, le téléphone sonne le 17 avril 2018, où il y avait pourtant un écologiste député européen qui était Geoffroy Didier. Pendant une heure, on avait eu un téléphone sonne sur les
Geoffroy
questions
Didier,
européennes, sans aucune question écologique.
Alors Jackie, votre question Anne-Sophie Novel.
Pardon ?
Votre question pour Anne-Sophie Novel, Jackie.
Oui, alors, ma question pour Anne-Sophie, est-ce que... maintenant que les faits sont avérés, est-ce que des mouvements vont s'amplifier pour amplifier la voix de Greta Thunberg et pouvoir enfin mettre en place une véritable politique d'information dans tous les médias de façon à éduquer la population pour avoir des réponses aux problèmes qui vont nous arriver de plus en plus rapidement?
Alors, vous répondez à Jackie, Anne-Sophie.
Il y a beaucoup de choses dans votre question, mais le climato-scepticisme a longtemps pesé dans la façon dont on abordait ces questions et ça a empêché le débat, justement, parce que longtemps, on se sentait obligé d'inviter ce type de sceptique pour avoir un débat. Et en fait, c'est plus le sujet. La BBC a arrêté de le faire en 2014 en disant « ce sont des négationnistes, les faits sont avérés, la science est établie, ce n'est pas la peine d'avoir un débat sur quelque chose qui est une certitude aujourd'hui, en tout cas en ce qui est du climat. Vous parlez d'éducation de la population, c'est-à-dire qu'il y a un effort pédagogique à faire. Et ça, je pense que un certain nombre de médias commencent à le faire, à commencer, voilà, ici on est dans une émission qui a évolué ces derniers mois, qui s'y attelle, la télé évolue aussi, le journal
c'est-à-dire
demande aussi.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de comprendre plus que de juste dire, en fait.
Les formats se multiplient, Le Monde, j'en parlais avec Stéphane Foucard, qui me disait, en effet, on fait de plus en plus de unes sur ce sujet, le fait d'avoir des unes sur la disparition des oiseaux des campagnes, c'était quelque chose qui arrivait beaucoup moins souvent auparavant, et la biodiversité, ce que donc les Anglais appellent maintenant vie sauvage gardienne, était quelque chose qui était difficile de traiter. Le vivant n'est pas un sujet facile en termes de médias.
Alors justement, on a Betty par email qui nous dit « Les médias ont beaucoup laissé le terrain libre aux réseaux sociaux, notamment sur ces questions d'écologie et de climat. Or, on y lit tout et son contraire. Comment peuvent-ils contribuer, ces médias, à dépolluer le débat ?»
En fait, les médias, de manière générale, et pas seulement sur l'écologie, sont attendus au tournant. C'est-à-dire que dans un monde où aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de fausses informations, beaucoup de choses dont on doute. Les Français n'ont jamais autant douté de l'information qui circule aujourd'hui. On attend justement des journalistes qui nous aident à y voir clair. Alors ça a été compliqué de s'en emparer au départ. Tout ce qui était fact-checking, comme on dit, vérification des faits, n'était pas chose aisée et acceptée facilement. Mais depuis 10 ans, ça s'est instauré. Et donc sur ces sujets de l'écologie, comme de manière générale, on attend des journalistes, c'est justement une opportunité de réélever le débat, de réengager de la conversation, de prendre de la hauteur par rapport à des sujets sur lesquels on peut entendre tout et n'importe quoi.
Vous dites on attend les journalistes, Anne-Sophie Novelle, mais on les attend aussi au tournant. Là, je vois un message justement qui vient d'arriver par email de Marie qui dit « Les médias ne sont-ils pas coincés aux entournures entre l'envie de raconter l'environnement et leur besoin de ressources publicitaires ? Il y a tant de pubs pour les SUV et les vols low cost, même sur votre radio, point d'exclamation. »
Évidemment. Enfin, j'ai envie de dire, ça a toujours été Jean-Marc Jancovici est un ingénieur qui a souvent abordé cette question justement du traitement médiatique de l'écologie et a souvent dit, mais en fait, comment avoir un discours honnête sur ce sujet alors que les annonceurs derrière nous invitent à rouler avec telle bagnole ou autre. Donc du coup, en effet, comment dire qu'il faut moins conduire, moins consommer alors qu'on dépend de ces ressources-là. Heureusement, ça change. Et je pense qu'il faut attraper justement ces annonceurs par leur désir d'être plus vert que vert. Et donc,
une image.
Non. Et je pense que cette responsabilité nous engage tous tellement qu'on ne peut plus se voiler la face.
Alors justement, par rapport au greenwashing, Gildas nous dit les médias parlent plus d'écologie qu'il y a quelques années, c'est vrai, mais n'est-ce pas par complaisance vis-à-vis de ce fameux greenwashing ?
Je pense pas que ça soit par complaisance.
C'est pas démagogique.
Alors après, la difficulté, c'est que on a souvent navigué entre l'alarmisme à passer pour des Cassandres. Et il y en a qui le disent. Vous le disiez encore ce matin. Des auditeurs se plaignent parce qu'ils ont l'impression qu'on en fait trop. Et les petites choses, les petits éco-gestes où certains et beaucoup de citoyens se disent, mais en fait, je ne suis pas plus responsable que les grosses entreprises qui polluent, contre le kérosène des avions qui n'est pas taxé, etc. Et c'est vrai.
Sauf que c'est pas la même échelle. Les petits bouchons de bouteilles qu'on
ramasse
et celui qui fait
C'est pour ça qu'il faut repolitiser le débat et montrer que la complexité passe aussi bien par ces petites choses que par des choix de société véritablement. Et pour ça, on a besoin de pédagogie, on a besoin de conversation, on a besoin de réintroduire du débat. Et du coup, je trouve que nous, en tant que journalistes, nous sommes bien placés pour essayer de faire cet effort de remettre la conversation et le débat au centre.
Alors, c'est quoi la bonne recette ? Je vais en profiter. Vous êtes ici à la Terre au Carré, par exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on améliore ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change ?
Oui, parce que justement, je vous coupe deux secondes, mais il y a Sylvain, par email, qui dit « On reproche souvent aux journalistes qui couvrent les sujets d'environnement de perdre leur objectivité et d'être trop engagés. Est-ce possible d'informer sans être militant ?» Suite de la question.
Oui, en fait, j'aimerais bien avoir la bonne recette parce que sinon, ça ferait longtemps qu'on aurait pu l'appliquer. Mais ce que m'a montré mon enquête, c'est qu'il y a plein de pistes à explorer. Je pense que c'est surtout dans notre façon d'investiguer les sujets, en fait. Soyons honnêtes sur la façon dont on part quand on est journaliste avec le point de vue qu'on peut avoir, notre acculturation, notre milieu social et notre façon de voir les choses. Faisons de bonnes enquêtes, mais ne faisons pas que pointer du doigt. Essayons aussi, justement, de montrer ceux qui essayent de panser la plaie, hein, panser avec un A, et qui essaye justement de trouver des solutions. Donc c'est avoir les deux revers de la médaille, pas juste pointer les problèmes, mais c'est aussi montrer voilà et montrer que c'est un travail en cours. Et ça, je pense qu'éditorialement, il y a plein de choses à faire et qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un métier qui, avec voilà un certain nombre de technologies, nous permet d'évoluer.
Alors on a Samuel au standard. Bonjour Samuel.
Oui, bonjour.
Anne-Sophie Novelle, écoute votre question.
Oui, bonjour à tous. Anne-Sophie, je suis moi-même journaliste, je conduis un projet éditorial aujourd'hui qui s'appelle Humans and Climate Change Stories, qui a l'objectif de suivre 12 familles dans le monde impactées par des dérèglements climatiques sur une durée de 10 ans. Et je souscris à tout ce que vous avez pu décrire au niveau de l'accueil des rédactions sur les différents sujets. Je voulais avoir votre sentiment sur la positivité des sujets que l'on nous demande à tour de bras. On nous demande d'être positif, de donner des bons signaux pour ne pas paralyser aujourd'hui les citoyens dans leur éco-geste. Qu'est-ce que vous avez pu percevoir sur l'évolution de cette notion de positif ?
Alors, votre réponse.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Longtemps, on nous a dit il faut pas traiter de ces sujets parce que c'est trop anxiogène. Et après, on a pris par l'autre bout de la lorgnette qui était de dire il faut faire du positif parce que c'est ce qui marche. Moi, je trouve ça insatisfaisant parce que même si le public demande plus de positif, si on ne faisait que ça, ça ne marcherait pas, les gens n'écouteraient pas. C'est pour ça que je dis il faut vraiment avoir les deux revers de la médaille. C'est-à-dire que quand on traite un sujet, avec rigueur, aller montrer ce qui pose problème et montrer aussi ce qui se fait pour essayer d'apporter des réponses à ce problème. Et donc c'est pas juste faire du positif, mais si on prend les choses que de cette manière-là, ça donne pas la bonne histoire non plus.
Et on reste sur cette réponse. Merci Anne-Sophie Novel d'avoir été avec nous aujourd'hui dans La Terre au Carré avec votre livre dont je rappelle le titre, Les médias, le monde et nous, publié chez Actes Sud. Dans un instant, le feuilleton de la semaine, direction l'île de Groix dans le Morbihan, où le tri des déchets n'est pas une mince affaire. Il y aura même des goélands argentés. Ce sera avec notre reporter Morgane Large.
France Inter, La Terre au Carré.
Et on va en faire des choses dans la prochaine demi-heure. Apprendre à sensibiliser les enfants à la préservation de l'eau. Ce sera vos solutions pour la planète avec Sophie qui nous présente son association, la Water Family. Un petit tour de vélo aussi en Normandie avec Ulysse Blot, notre invitée découverte, partie à la rencontre de 64 communes du Calvados. Mais d'abord, notre nouveau feuilleton de la semaine. Je vous le disais, on part sur les îles bretonnes avec vous, Morgane Large. Bonjour.
Bonjour Camille.
La gestion durable des ressources sur les territoires insulaires apparaît comme une évidence. L'espace naturel, l'eau, les terres agricoles et l'énergie sont limités. Ces territoires pourraient même servir d'exemple au continent. Vous nous emmenez, Morgane, pour le premier épisode dans le Morbihan sur l'île de Groix, mettre le nez dans les poubelles.
Oui, il y a à Groix 2200 habitants et comme sur toutes les îles, la gestion des déchets est un vrai enjeu.
On a été la première île des îles du Ponant à régler le problème des déchets par une déchetterie et par l'expédition des déchets sur le continent via les rouliers.
Les Croisillons sont très fiers de la manière dont ils trient et gèrent leurs déchets aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été ainsi.
Autrefois, il y avait à Groix quelque chose qui existait dans toutes les îles, bien sûr, c'est-à-dire un dépôt pas sauvage, un dépôt géré par la mairie à la côte. Les camions qui ramassaient les poubelles allaient les vider carrément, allaient vider les déchets à la côte.
Dans la mer ?
Dans la mer, voilà. Ça s'appelait la ch'trouille.
La ch'trouille ?
Oui, ah bah, ça c'est bien. T'aurais dû venir avant. Ouais. T'as entendu les bandes de lacs exploser.
Ouais. Pourquoi ?
Parce que tes gamins ont joué là-bas, on mettait le feu dedans.
La décharge était pleine. Puis après, donc, c'est aussi ce qui fait qu'on avait adhéré à l'époque à Lorient Aglo. Justement pour rentrer dans un processus, parce que la commune seule n'aurait jamais pu assumer. Mais ce processus-là a permis d'enclencher le retour des bennes et des ordures sur le centre d'enfouissement de Caudan, qui est le centre d'enfouissement du Pays de l'Orient.
Au départ, on faisait le broyage d'ordures.
Oui.
C'était pas expédié sur le continent. Hein. Et après, on a fait le compactage avec l'expédition des bennes sur l'Orient. Nous, à Groix, la déchetterie, on garde que les déchets verts, parce qu'on fait du compost, et les gravats. Tout le reste, bois, ferraille, carton, tout venant, plastique, tout part sur l'Orient.
Et le compost à Groix, ça s'appelle la poubelle bio. Explication à la déchetterie avec Yvon.
Vous voyez par exemple, on a les poubelles vertes là-bas, qui sont les poubelles bio. Si vous voulez, il y a une tournée en camion, tous les vendredis matins. Donc on récupère tout ce qui est déchets... nourriture et compagnie, et c'est mis dans des sacs biodégradables. Et une fois que ça a été collecté, on les dépose avec tout ce qui est donc branches, etc., qui a été concassé, tamisé, pour arriver à faire, si vous voulez, un compost fini comme le monsieur prend là.
Avec ce gros camion ?
Là, je transporte du compost.
Vous l'emmenez où ?
Sur un terrain.
Pour amender des terres ?
Oui, pour amender des terres. Et puis c'est un produit qui n'est pas ramené sur le continent. L'avantage des déchets verts, c'est que ça reste sur Groix. Tous les autres sont ramenés sur le continent, pour ainsi dire. Tous les autres déchets. Que là, il y a moindre coût, moindre impact sur la planète. C'est le plus avantageux, quoi. Ça fait des grosses quantités, des gros volumes de déchets qui restent sur l'île, quoi.
Autre moyen de réduire ces déchets à Groix, c'est la ressourcerie.
Moderne ch'trouille.
Qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, c'est, vous voyez, on récupère les affaires que les gens jetteraient, et nous, on les recycle et on les revend.
Vous passez votre vie à la déchetterie, monsieur ?
Non, 3 fois par semaine. Puis après, on a le local où on vend. Deux fois par semaine.
On n'a pas l'impression qu'il y a tant que ça de choses sur une île.
C'est invraisemblable. Mais si vous voyez les tonnages de choses qui sont jetées, c'est incroyable.
Qui sont vos clients ?
Tous les gens de Groix. Aussi bien les résidents principaux que les résidents secondaires. Tout ce qui vit à Groix.
Mais les gens qui viennent acheter à la ressourcerie, c'est qui ?
Eux, les mêmes. Ça tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Enfin, quelques réfractaires comme Michel continuent à Groix de gérer leurs poubelles à l'ancienne.
Je fais comme avant, en fait. J'ai rien changé. J'ai un potager, donc les légumes, les pluches, tout ça, vont dans le potager. Et quelquefois le poisson, mais je préfère pas. Donc le poisson, pour ne pas tirer les mouches, là, je les mets aussitôt à la mer.
Ça veut dire que vous allez souvent en mer ?
Tous les matins. Oui, oui, pêche. Sans se nourrir, il y a la terre, il y a la mer, il y a tout. Et on mange bien.
Et si on veut faire un geste pour les îles concernant les déchets, eh bien il faudrait que les visiteurs d'une journée qui viennent très souvent avec leur pique-nique repartent avec leurs déchets dans leur sac à dos pour le mettre sur le continent.
Pour éviter la ch'trouille.
Voilà. Et les photos de vos reportages sont à retrouver, Morgane Large, en particulier sur la page Facebook de La Terre au Carré et sur Instagram, c'est formidable. Demain, Morgane, on part à Ouessant, c'est ça ?
Et oui, on part à Ouessant pour assister à l'immersion d'une hydrolienne.
Alors à demain.
France Inter, La Terre au Carré, vos solutions pour la planète.
Et nous sommes en ligne avec Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Mais je vous en prie, d'où nous appelez-vous ?
Eh ben d'un endroit que vous aimerez bien voir, je pense, c'est Biarritz, la Côte des Basques.
Ah ben parfait. Alors vous êtes coordinatrice justement, c'est bien avec votre association, l'association Water Family, qui aide donc à sensibiliser les enfants à la préservation de l'eau. Comment vous êtes arrivée à cette association ?
Alors à titre personnel, vous voulez dire ?
Oui.
Alors, c'est une grande histoire, une petite histoire plutôt. Je suis ingénieure agronome de formation et j'ai travaillé pendant pas mal d'années dans un laboratoire pharmaceutique. Et puis, comme beaucoup de mamans, j'ai eu des enfants et j'ai eu envie de me sentir utile et de faire quelque chose pour cette planète que j'allais laisser à mes enfants. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer des belles personnes dans notre association, notamment les fondateurs Renaud Hermin et Bernard Crépel, et qui m'ont convertie. Et donc, voilà, je suis rentrée dans cette belle grande famille de l'eau comme ça.
Ça fait combien de temps que vous faites des contenus pédagogiques pour les enfants ?
Alors l'association a 10 ans et ça fait 10 ans que nous créons des contenus pédagogiques pour leur apprendre, les petits et les grands d'ailleurs, à mieux protéger l'eau et apprendre aussi la notion de consommation responsable.
Alors votre credo, c'est agir à la source, c'est bien ça ?
Tout à fait, parce que agir à la source pour deux raisons. La première, c'est la pédagogie, parce qu'en fait, si on forme les jeunes générations, eh ben, on va aider à faire changer les choses plus rapidement. On sait que c'est environ un enfant sensibilisé, ce sont à peu près 7 personnes touchées dans son environnement. Donc du coup, si on agit à la source par la pédagogie, eh ben, on va faire changer les choses plus vite. Et la deuxième chose, c'est que agir à la source aussi, parce que nous traitons d'un sujet, c'est de le déchet, le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Et donc on essaie d'apprendre à vraiment agir de l'amont à l'aval et à traiter les problèmes à la source. En parlant notamment d'une notion qui nous tient chère, c'est l'eau virtuelle.
C'est quoi
l'eau virtuelle ou indirecte, voilà.
C'est quoi l'eau virtuelle, hein ?
Alors, c'est l'eau qui est cachée derrière notre quotidien. Donc, par exemple, c'est toute l'eau qu'on ne voit pas, qui est nécessaire pour fabriquer mon ordinateur, mon alimentation, mon jean. Donc,
ah, d'accord, c'est pas un truc virtuel pour les enfants où vous les mettez dans une eau virtuelle ? Non,
C'est l'eau, par exemple, quand on parle que pour faire un kilo de bœuf, il faut je sais plus combien de milliers de litres d'eau, etc. C'est ça l'eau virtuelle dont vous parlez,
exactement,
Sophie.
Exactement. En fait, l'eau virtuelle, si on prend l'exemple d'un jean, par exemple, c'est 11 000 litres d'eau pour fabriquer un jean, parce qu'on va partir du calcul de sa matière première qui est le coton, puis il va y avoir le tissage, la teinture, la couture, le transport, voilà, toutes ces étapes de l'emballage à la vente et puis même jusqu'au lavage qui vont consommer de l'eau, qui vont consommer aussi, enfin générer aussi des pollution. Et donc, si on apprend à prendre conscience de ça, eh ben, on va essayer d'être éclairé, d'être un consommateur éclairé et responsable.
Concrètement, comment ça se passe, Sophie ? Vous expliquez aux jeunes, ne mettez plus de jeans ?
Alors non, on demande pas à tout le monde de vivre tout nu et de voilà, c'est pas l'objectif. En fait, on leur propose des éco-gestes. On fait tous des choses de bien dans notre quotidien et en fait, on leur apprend comment on peut consommer différemment. Donc on va leur apprendre par exemple sur l'alimentation c'est environ 3000 litres d'eau par jour et par personne et que si on consomme du local, des produits de saison, du biologique ou du produit paysan, on va consommer moins d'eau et générer moins de pollution.
J'imagine, Sophie, quand même, vous êtes la Water Family qui a un peu des activités avec de l'eau quand même.
Exactement. Donc, on va parler aussi d'eau directe, hein, qui on en consomme 150 litres par jour. Et puis, on va en fait aussi s'appuyer de beaucoup d'ambassadeurs qui sont des gens issus du monde de l'eau à l'origine. Mmh. Donc, des champions comme Tony Estanguet, comme Mathieu Crépel. Et puis, on a même un jeune skipper, là, Benjamin Dutreux.
Oui, j'ai vu, qui a pris le départ de la Transat Jacques Vabre, c'est ça?
Voilà, c'était exactement. Hier, avec un bateau, tout à fait, c'était un moment assez émouvant. Et il est parti, ils sont partis à deux avec Thomas Cardrin en bateau, traverser la Transatlantique. Et en vrai, ils sont partis à trois parce qu'ils ont emmené un bébé arbre sur le bateau comme symbole, de tous ces enfants qu'on sensibilise aux enjeux de l'eau, de la préservation de l'environnement. Et donc, ces sportifs vont nous aider au travers d'actions sportives et au travers de leur notoriété à essayer de faire changer les choses aussi.
Et alors, tous ces outils, ils sont gratuits pour les familles, pour les scolaires, pour les professeurs et les enfants, évidemment?
Oui, c'est intégré dans notre Pôle Water Academy. Ils sont complètement en open source. Vous pouvez les télécharger sur notre site internet. Donc c'est à destination des familles, des enseignants. Et c'est nous qui les développons en interne. Et l'objectif, c'est que quand on intervient en classe, on intervient gratuitement. Donc on a formé toute une série d'animateurs, nous, qui travaillent avec nous. Et on sensibilise à peu près 20 000 jeunes par an au travers de ces programmes de la Water Academy.
20 000 jeunes, sachant donc, comme vous l'avez dit, qu'un jeune peut toucher 7 personnes autour de lui. Ça commence à faire beaucoup. Je suis nulle en calcul mental, mais c'est pas mal. c'est pas grave. Est-ce que vous avez des projets à venir, Sophie, en plus de cette Water Academy?
Oui, alors on sort notamment un jeu qui va s'appeler le programme Terre-Océan, qui sort en 2020 et qui a pour objectif d'expliquer, toujours dans cette idée du flocon à la vague, hein, qui est l'origine de notre association, d'expliquer le lien amont-aval pour l'océan, d'apprendre à mieux le protéger. Donc avec, pareil, un programme pédagogique, un livret qu'on remet aux enfants, un jeu, parce qu'on développe aussi beaucoup de jeux, nous, dans le programme Water Academy. Et puis voilà, toute une série de supports donc qui devraient sortir en courant printemps 2020. Et puis on espère s'en servir lors du passage aussi du bateau qui devrait faire le Vendée Globe, le bateau Water Family, toujours pour porter ce message de préservation de l'eau et de notre santé.
Eh bien c'est bien noté. Merci beaucoup Sophie d'avoir été avec nous dans la Terre au Carré. Donc on peut aller faire un tour sur votre site, je le rappelle, c'est waterfamily.org. Et puis j'ai quand même fait le calcul, hein, 20 000 x 7 ça fait 140 000, c'était pas si difficile, donc ça fait 140 000 personnes sensibilisées. À très bientôt, Sophie. Merci beaucoup.
Merci.
Et si vous aussi, vous êtes à l'origine d'une initiative pour la planète dont vous voulez nous parler, si vous avez même besoin d'aide pour monter un projet, Chantal Le Montagnier attend vos mails et vos messages et vos demandes. On attend toutes vos idées sur franceinter.fr, sur la page de la Terre au Carré. Et dans un instant, on pédale à travers le Calvados, juste après Jeanne Chéral, Le Feu aux Joues. Bon après-midi sur France Inter.
J'habite mon corps de petite fille, fines attaches de brindilles, coups des genoux griffés sérieux, cheveux mouillés à la piscine, planche à dessin sur la poitrine, bouton de nacre mystérieux. Le feu aux joues qui monte, qui monte, qui vient toujours avec la honte, qui vient toujours sans prévenir. Et la colère qui cogne, qui cogne. Ce même corps que tu serres contre toi, c'est encore et encore et encore ce corps-là. Bélier sur mon dos d'âne, bouton de nacre douloureux. Le feu aux joues qui monte, qui monte, qui vient toujours après la honte, qui vient toujours dans ces cas-là. Et la colère qui cogne, qui cogne. Tu serres contre toi, c'est encore et encore et encore ce corps-là.
France Inter, la Terre au carré.
Et nous voici, comme promis, à bicyclette. J'aimais bien cette petite sonnette. Bonjour Ulysse Blot. Vous avez 27 ans, vous êtes ingénieur en bioressources. Ça veut dire quoi pour les nuls comme moi, bioressources?
Alors, bioressources, c'est tout ce qui est utilisation du vivant pour faire des choses. Et moi, ma particularité, c'est la gestion de l'eau. Donc, comment on utilise les plantes, les micro-organismes, les champignons, les écosystèmes, d'une manière générale, pour gérer et purifier l'eau, que ce soit l'eau de pluie ou les eaux usées.
Alors, Ulysse, vous avez, du 15 avril au 15 juillet dernier, pendant 3 mois, donc, parcouru le Calvados à vélo. Combien d'étapes et combien de kilomètres ça fait, ça?
Alors, en tout, il y avait 64 étapes, puisqu'en fait, j'ai rencontré un maire par jour pendant 3 mois. Donc, 64 maires, parce qu'il y a 64 jours ouvrables dans 3 mois, pour les interviewer sur la transition écologique dans leur commune, plus précisément la gestion des ressources et l'implication des citoyens.
Et alors, combien de kilomètres vous avez fait au total?
Au total, il y a un peu plus de 1000 kilomètres, mais le but, c'était pas de faire du vélo, le but, c'était vraiment d'avoir le temps de rencontrer les gens. Et donc, c'est pour ça que j'ai cherché à prendre ça au niveau du Calvados, d'un département relativement peu petit, enfin pas très grand, pour avoir le temps de parler avec les gens.
Parce que justement, vous n'êtes pas du tout du Calvados en fait, vous êtes parisien, c'est ça?
C'est ça, moi je suis parisien et justement j'avais besoin
Pourquoi
de comprendre ce qui se passait en dehors de Paris, en dehors des grandes villes. Et donc je me suis dit, bah, allons voir sur place directement qu'est-ce qui se passe sur le terrain, allons rencontrer les maires et les habitants.
Et pourquoi le Calvados? Vous avez pointé au hasard sur la carte de France en disant j'irai dans ce département? Ou
alors le Calvados, parce qu'il y a une grande diversité de communes dans le Calvados, il y a des communes au bord de la mer, des communes dans les terres, des communes touristiques, au passé industriel, des communes agricoles. Justement cette diversité-là qui, moi, m'intéresse. Des communes immenses comme Caen et d'autres toutes petites comme Périgny, 58 habitants. Et donc, en rencontrant les maires de ces communes, j'avais un peu un aperçu de ce qui pouvait se passer aussi en dehors du Calvados parce qu'il y avait une belle diversité de communes.
Alors, votre épopée s'appelle La route en commune. L'objectif, donc, c'était, vous le dites, de rencontrer des maires. Mais dans quel but? De parler transition écologique, mais pourquoi?
Alors, l'idée, c'était pas de leur parler transition écologique, c'était juste de les interviewer, de les questionner, de faire un état des lieux.
À quel sujet?
Alors, au sujet donc de la gestion des ressources, donc eau, énergie, agriculture, et de l'implication des citoyens. Moi, je ne suis pas venu pour les convaincre ou même les sensibiliser, juste pour, j'arrivais, je posais mes questions, je notais les réponses et je repartais. Le but du jeu étant de faire cet état des lieux pour savoir ce qui se passe concrètement sur le terrain, au-delà de ce qu'on peut penser, de ce qu'on imagine, pour confirmer ce qu'on pensait ou pas, et donc avoir un avis concret, parce que cette étude, c'est une étude qui est auto-organisée, auto-financée, indépendante, et donc elle n'a pas de parti pris. Le but, c'était vraiment de comprendre ce qui se passait concrètement sur le terrain.
Et comment vous avez choisi les 64 étapes au hasard?
Alors,
vous
complètement au hasard. Non, justement, l'idée, c'est que j'ai choisi toutes ces communes-là au hasard, parce que je ne voulais pas, d'une part, avoir à justifier les communes, et puis surtout, ça me permettait d'avoir une vision très large de toutes ces communes-là.
Et l'accueil, il a été comment? Vous avez pris rendez-vous en amont avec les maires ou vous arriviez comme ça à l'improviste?
Alors, tous les rendez-vous ont été pris à l'avance parce que les maires devaient se rendre disponibles le jour où je passais, ce qui n'était pas forcément facile. Donc oui, les maires ont été très, très accueillants à ce niveau-là. Ils ont quasiment tout le monde a joué le jeu, sauf quelques-uns qui ne pouvaient pas le jour où je passais. Mais sinon, ils ont tous joué le jeu et aussi bien des toutes petites communes que des grandes communes.
Il n'y en a pas qui ont cherché à se débiner en ayant peur de se faire passer sur le grill, pas encore par un ayatollah écolo qui venait leur trouver leur faute.
Alors, il y en a quelques-unes qui n'ont pas accepté, mais ça c'est normal. Non, parce que justement, je ne me présentais pas comme un ayatollah écolo, c'est pas du tout la question. Je suis un citoyen qui est venu pour poser des questions, et comme de toute façon, toutes les réponses qu'ils m'ont données sont anonymisées ensuite. D'accord. Dans le rapport qui est sorti la semaine dernière. Ils n'avaient pas de raison de me donner des fausses informations ou d'essayer de se survendre, puisque de toute façon, toutes les informations qu'ils me donnaient allaient être anonymisées et que je venais de la part de personne. Donc, il n'y avait personne à impressionner à part partager la réalité du terrain.
Et donc parler des ressources, c'est une façon aussi, à l'approche des municipales, hein, c'est en mars prochain, c'était une façon de mettre un peu le thème devant leur visage, comme ça, devant leur nez, histoire de leur dire c'est un thème important, ne l'oubliez pas.
Alors encore une fois, il n'est pas du tout question de sensibiliser, juste de faire un état des lieux. Ensuite, c'est à eux, s'ils ont envie de se renseigner, de creuser le sujet, ils peuvent le faire. Mais mon objectif, c'était juste d'écouter, de venir, de poser des questions, d'écouter, et ensuite de synthétiser ces 64 interviews, plus d'une centaine d'heures d'entretien, dans une synthèse qui soit à la fois lisible, qui soit utilisable ensuite par les maires, les citoyens et tous ceux qui ont envie d'utiliser cette matière-là pour aborder le sujet de la transition écologique avec leurs collègues, leurs voisins, leurs amis, leurs familles, pour qu'on parle de ce sujet-là, entre autres, aux élections municipales.
Et alors justement, dans votre recherche, est-ce que vous avez constaté des très grandes différences de traitement des déchets, des ressources par les différentes mairies dans cette petite circonscription?
Bien sûr, chaque mairie gère les choses de façon très différente.
Donc il y a le meilleur et le pire, j'imagine.
Oui, il y a de tout, vraiment, il y a de tout, aussi bien sur l'eau, sur l'énergie, sur les déchets. Alors les déchets, c'est une compétence qui est au niveau intercommunal, donc c'est plus difficilement les maires, mais il y a vraiment de tout. Et justement, ce dont on se rend compte aussi, c'est que les maires ont énormément de pouvoir. En fait, en parlant avec eux, c'est vraiment un élément clé que j'ai retenu dans cette synthèse, dans ce rapport, dans ce périple, c'est que les maires n'ont pas tous la même notion de leurs limites. Quand on pose la question à un maire, des maires pensent impossible des choses que d'autres maires ont réalisé. Et donc, en fait, on réalise que la limite, c'est eux qui se la mettent, parce que pour plein de raisons différentes. Et donc, un élément vraiment important, c'est que les maires ont énormément de pouvoir au niveau local.
C'est eux qui gèrent les ressources sur leur terrain. Ce sont les maires, Ulysse Blot, qui font ça. C'est ça que vous avez?
Alors, c'est les maires. L'intercommunalité, c'est très, très large. Il y a plusieurs niveaux qui gèrent ça. Et puis, les maires et le conseil municipal, ils sont pas tout seuls. Mais en tout cas, le maire a un énorme pouvoir au niveau local, parce que c'est l'interlocuteur direct avec les habitants qui sont là tous les jours. Et le maire est un habitant comme les autres. Il marche sur le même sol, il boit la même eau, il respire le même air. Très souvent, il travaille comme tout le monde. Et donc, c'est pas un personnage politique, c'est un habitant comme les autres qui a juste eu la confiance de ses concitoyens pour faire des choses. Et il a ce pouvoir-là.
Les habitants, justement, ils vous ont bien reçu. Vous avez pu dialoguer avec eux aussi pendant cette route de commune?
Alors, tout à fait. En fait, durant tout ce périple, pour réduire les coûts de l'étude, puisque c'est une étude auto-financée, j'ai voyagé à vélo et j'ai dormi chez l'habitant, donc tous les soirs je dormais chez des habitants différents que je ne connaissais pas le matin même, donc c'était une très très bonne occasion de s'en rendre compte aussi de la réalité des habitants du Calvados, en comparant
par hasard,
des soirées
Calvados,
entières.
Du nom du digestif.
Donc les données que vous avez récoltées aussi bien auprès des maires que des habitants, vous venez de les compiler dans cet état des lieux que vous avez sorti la semaine dernière. Quels sont les grands points qui ressortent de cet état des lieux qui pourraient servir aussi bien aux maires qui nous écoutent qu'aux habitants et que sais-je encore, quels sont les grands points qui ressortent?
Donc l'élément clé pour moi, c'est que le maire a énormément de pouvoir, mais les habitants aussi. Et qu'en fait, c'est intéressant parce que très souvent, quand on demande ce qu'attend un maire pour agir, il dit qu'il attend que les citoyens le sollicitent, lui propose des choses, lui demande des choses. Et quand on demande aux habitants, ils disent qu'ils attendent que le maire agisse et fasse des choses parce qu'il a été élu pour ça. Et donc, il y a une sorte d'attente des deux côtés, et ce qui peut être une des raisons pour laquelle les choses avancent aussi doucement.
Et en ce qui concerne l'agriculture, par exemple, il y a des choses qui sont ressorties particulièrement?
Alors, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, il y a très peu de liens en termes agricoles entre la production de nourriture locale et la consommation. Très souvent, en fait, on produit de la nourriture qu'on exporte et on importe de la nourriture qu'on consomme sur place. Et donc, il y a pas de lien entre ces deux éléments, et ça pourrait être une bonne façon de recréer du lien entre consommation locale et production locale agricole.
Donc, en plus de faire un état des lieux, vous proposez des solutions, vous, ou des pistes de réflexion éventuelles?
Alors, oui, effectivement, l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et d'ailleurs,
le but... vous avez votre compétence. compétences justement sur le traitement de l'eau.
Oui, voilà, tout à fait. Le but, c'est vraiment, moi je ne suis pas venu en tant qu'expert, je suis vraiment venu en tant que personne qui écoute comme témoin. Le but du jeu, c'est que les gens prennent ce rapport-là et qu'ils aillent justement se poser la question, est-ce que la situation actuelle me convient ? Si oui, rien à faire. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour faire avancer les choses ? Parce que les gens qui savent ce qu'il faut faire, très souvent, ils habitent là, puisque ça les concerne directement.
Donc c'est quoi vos pistes de réflexion à vous, Louise Blot ?
Alors, entre autres, il y a effectivement tout ce qui est agricole, donc comment relier cette production et cette consommation. Il y a aussi la gestion de l'eau, de comment en fait comprendre comment fonctionne l'eau sur le territoire. Ne serait-ce qu'une question très simple que j'ai posée au maire, c'est d'où vient l'eau potable qui sort du robinet ? C'est une chose évidente, mais moi je me suis rendu compte que, parisien, je ne sais pas d'où l'eau potable vient. L'eau qui sort de mon robinet. Donc, c'est des petites questions comme ça. En termes d'énergie, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de production locale. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour réduire la consommation énergétique à travers les bâtiments communaux, mais pas beaucoup de sensibilisation. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser ce rapport comme une source d'information, une base d'information. Mais le plus important, c'est de s'en servir pour discuter comme prétexte à la discussion.
Vous prévoyez de reprendre votre vélo bientôt dans un autre département, peut-être, Lys ?
Alors, le but du jeu, c'est que chacun puisse le faire dans son département, donc qu'ils se posent eux-mêmes les questions et qu'ils aillent ensuite interviewer leur maire et leurs habitants et même les candidats aux élections municipales pour leur poser la question et les encourager à s'engager sur des mesures concrètes.
Vous nous rappelez le site internet où on peut voir toutes ces informations ?
laroute.en.commune.fr, en commune avec un S.
Parfait, merci. Et tous les liens au cas où sur la page de La Terre au Carré sur franceinter.fr. Et bien voilà, c'est déjà l'heure de se quitter, mais on se retrouve demain, Guive, n'est-ce pas ?
Avec plaisir.
Alors à demain, Denis Delbecq qui est à la rédaction en chef de l'émission, Chantal Le Montagnier, Lucie Sarfati et Sophie Vaux pour la préparation des dossiers.